Espace femme.
Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire Espace Femmes de Studio Kalangou consacré aux questions d'actualité ou de société que se posent particulièrement les femmes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui touche particulièrement les femmes du Niger, le droit foncier pour la femme. Quelle voie de recours pour permettre aux femmes d'accéder à la terre ? La société nigérienne, dans sa diversité culturelle, a une organisation sociale traditionnelle de type patriarcal dans la majorité des communautés. D'une manière générale, la terre agricole appartient aux familles fondatrices du village ou du canton et c'est le chef du village ou du canton qui est dépositaire de la réserve foncière communautaire. On peut donc accéder à la terre par voie de succession en général réservée aux hommes, marginalisant ainsi les femmes. Pour mieux comprendre, nous recevons au studio ce soir Madame Hima Fatoumatou, secrétaire générale du RDFN, Rassemblement démocratique des femmes du Niger, membre du bureau exécutif de la plateforme paysanne du Niger, Madame Hawa Nargungu, enseignante à l'école coranique, et Maître Ould Salem Mustapha Saïda, secrétaire général des associations des jeunes avocats du Niger. À la présentation, Rafika Taher. Bonsoir à tous. Accéder aux fonciers permettrait en effet à cette catégorie de personnes qui sont surreprésentées, estimées à environ plus de la moitié de la population nigérienne, sont les plus vulnérables de disposer d'une source de revenus. La situation des femmes ayant accès à la propriété foncière est insignifiante en dépit des dispositions favorables que lui réservent le droit coranique, le droit civil et le droit coutumier en la matière. Le droit coutumier refuse ou limite la propriété foncière des femmes parce qu'on considère qu'elles ne disposent que de peu ou pas de temps pour s'en occuper ou parce qu'elles se marient hors du terroir familial et qu'elles risquent de vendre ce précieux patrimoine à des personnes extérieures à la famille. Et Madame Nargungu, quels sont les droits fonciers des femmes selon l'islam ?
Merci donc de nous accepter dans ce forum. Pour qu'effectivement on puisse vraiment recadrer les choses. Parce que tout simplement, au Niger, nous disons être à 99,02% musulmans. Effectivement, donc, quand on parle d'islam, on ne va plus parler de tradition ou de coutume. Ceci étant, vraiment, l'islam est venu justement réajuster tout ce qui est injustice de part et d'autre. Pas seulement du côté de la femme, mais l'islam est là pour tout équilibrer. Et c'est ainsi que tout patrimoine, que ce soit foncier, matériel, tout patrimoine est à la disposition aussi bien de l'homme que de la femme. Et notamment, la femme a deux ou trois sources de revenus qui peuvent la rattacher à la terre, donc selon les circonstances. Qu'elle soit donc fille appelée à se marier, elle peut recevoir donc du prétendant sa dot qui peut être un foncier. Il y a aussi la situation générale, c'est en tant qu'héritière qu'elle peut être donc veuve, orpheline. Aussi bien le Coran que les dispositions du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas fait de différence entre les deux. Bon, peut-être que au niveau du partage, il y aurait une certaine différence, mais le principe est là. Elle a aussi accès à la terre.
Maître, quels sont les droits fonciers des femmes selon le droit civil ?
Avant même le droit civil, quand vous dites le droit à la terre, c'est le droit des propriétés. Ce droit, c'est un droit protégé et garanti par la Constitution du Niger à son article 28. Et la Constitution dit toute personne. Donc, en toute personne, que ce soit la femme ou l'homme. Le seul obstacle, c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique, car l'État veut ça. Mm-hmm. Et même ça, il y a une procédure régulière qui est prévue. Ensuite, pour ce qui est du droit civil, c'est l'article 711 qui prévoit les modes d'acquisition de la propriété. Donc, du terrain même pour la femme. On dit que la propriété s'acquiert par testament, par succession, par donation entre vifs, ou par l'effet des obligations, ou par l'effet de la prescription. Voilà, ça c'est ce qui est du code civil.
Avant, les femmes de Kolo n'osaient même pas parler de foncier. Elles ne pouvaient pas hériter la terre de leurs parents, encore moins celle du mari. Nous voulons travailler la terre, mais nous n'avons pas les moyens.
Donc, quelles sont vos réactions suite à ce témoignage?
Surtout en région Germain, je ne connais pas tellement l'Est, les réalités de l'Est, mais c'est tellement évident pour eux que la femme n'a rien à voir avec la terre. Effectivement, c'est ce qu'ils disaient. Bon Dieu, merci. Bon, c'est vrai que le Coran est là depuis 1440 ans. Mm-hmm. Effectivement, elle parle du passé, mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Et j'ai vu même, effectivement, la région de Kolo, là, il y a l'ONG de Madame Bembelo. Vraiment, il y a une campagne de sensibilisation. Et nous pensons que ça est en train de donner des fruits.
Maître, votre réaction par rapport à ce témoignage?
Apparemment, c'est sur la base d'une coutume. D'accord. Mais secte et les coutumes sont source de droit au Niger. Mm-hmm. Même si nous, on a tendance maintenant tous à les appeler coutumes islamisées pour tomber dans le droit islamique. Mais heureusement, il y a des conventions internationales signées et ratifiées par le Niger mm-hmm. qui ont prévu que toute coutume qui viole le droit de l'homme et écarté. Donc des coutumes comme ça, je pense que ne peuvent pas prospérer. On ne peut pas les appliquer devant les cours et tribunaux en République du Niger. Conformément à toutes les conventions internationales signées et ratifiées par la République du Niger, du fait que ces coutumes violent un droit fondamental à la femme.
Madame Fatoumatou.
Bonjour, je vous remercie vraiment pour m'avoir donné la parole aujourd'hui. Je suis aussi membre du comité national d'élaboration de la politique foncière du Niger. Je suis la présidente de la sous-commission suivi et évaluation des états généraux du foncier rural au Niger. Et mes appréciations par rapport à ce témoignage, c'est qu'il y a une méconnaissance des droits. Pourquoi ? Parce que tous les textes, que ce soit civil, que ce soit moderne, donnent droit à l'accès à la terre à la femme. Et même les textes religieux donnent droit à l'accès à la terre à la femme et elle a droit à l'accès à la terre.
D'accord. Donc, selon l'ordonnance numéro 93-015 du 2 mars 1993, fixant les principes d'orientation du code rural, tous les Nigériens peuvent, bien sûr, accéder au foncier sans discrimination liée au sexe ou à l'origine sociale. Pour illustrer un peu cette situation, écoutons des témoignages de femmes estimant avoir été injustement privées de l'accès à leurs terres.
C'est le champ d'autrui. Nous travaillons ce champ et on nous paye en contrepartie. Mon mari a vendu son champ. Je suis obligée de travailler le champ des autres pour trouver de quoi subvenir à mes besoins. Les femmes n'ont pas accès au foncier parce que beaucoup de personnes estiment qu'une femme autonome ne respecte pas ses supérieurs.
Vos réactions, maître?
Je pense qu'il appartiendra tout simplement à ces femmes de faire valoir ses droits, leurs droits devant soit la chefferie traditionnelle qui a un pouvoir de conciliation, ou devant les cours et tribunaux, devant aussi les associations islamiques du Niger qui ont aussi un pouvoir de conciliation.
Madame Nargungu.
Ça, c'est le quotidien, malheureusement, de nos femmes, aussi bien en campagne qu'en ville, parce que tout simplement, la femme, c'est très dommage. La femme, encore, c'est très dommage. Au Niger, elle est moins qu'un objet. Parce que la femme, quand même, comme l'a dit un sage, j'ai vraiment oublié le nom. C'est-à-dire, nous devons respecter la femme à travers la mère qui nous a porté. Un champ dans lequel on sait que, en tout cas, les provisions de l'année, c'est pratiquement le magasin ou la source même de ravitaillement de toute une famille. On se permet de le vendre. De le vendre, tu ne te soucies même plus de comment nourrir cette famille que tu as quand même en charge. Non content de ne pas faire ce travail champêtre. Parce que la femme, en réalité, n'aurait même pas besoin d'aller au champ travailler. Là, je l'entends dire qu'elle va travailler dans le champ d'autrui, même dans son propre champ. La femme telle qu'elle est, telle qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous l'a confiée, n'a même pas besoin d'aller travailler dans le champ de son mari. C'est à lui qu'Allah a donné les muscles qu'il faut. C'est à lui qu'Allah a à faciliter la production des hormones de la force, des hormones androgènes. Donc, non seulement tu ne travailles pas pour cette femme, et deuxièmement, tu te permets encore de vendre ce champ. Je ne sais pas, ça n'a pas de qualificatif.
Votre appréciation, Madame Fatoma Touf.
Donc déjà, cet article-là, il donne droit à la femme, puisqu'on dit sans discrimination. Il y a les orientations et les objectifs assignés à l'initiative 3N, qui dit que aussi tout le monde a droit à la terre et a droit à produire. Il y a les directives de l'Union africaine. Il y a la convention et les chartes internationales. Parmi ces conventions, la plus intéressante est la déclaration du programme d'action de Beijing. Il y a 9 principes sur 12 de cette stratégie du programme de Beijing qui sont en rapport direct avec l'accès à la terre et aux facteurs de production. Il y a aussi l'avènement des directives volontaires pour une gouvernance foncière responsable qui ont 5 principes généraux qui sont résumés comme tels. Il y a la reconnaissance et le respect de tous les détenteurs des droits légitimes du foncier, protéger les droits fonciers légitimes, promouvoir et faciliter l'exercice des droits fonciers légitimes, donner l'accès à la justice et prévenir les différents fonciers, les conflits et la corruption. Ces directives volontaires sont un document mondial et là, ils protègent vraiment tous les droits fonciers.
D'accord, Madame Fatima Touma. Est-ce que ces dispositions sont respectées?
Et non, ces dispositions ne sont pas toujours respectées. C'est pourquoi il y a eu une commission nationale qui a été mise en place pour élaborer une politique foncière au Niger et pour pallier à certaines insuffisances, puisque effectivement toutes ces pratiques ne sont pas respectées. Notre plateforme, donc, elle prévoit effectivement l'élaboration de cette politique. Au sein de cette politique nationale, il y a une commission nationale multi-acteurs qui est chargée d'élaborer la politique foncière au Niger, y compris nous, les associations féminines et même les jeunes. On a présenté le draft zéro de cette politique foncière et toute la société civile, y compris les associations féminines, ont eu à se réunir et à amender le draft zéro de cette politique foncière. Donc nous avons eu à insérer tout ce qui peut nuire à l'accès au foncier pour les femmes. Et nous avons fait des propositions très pertinentes, telles que dans les aménagements hydro-agricoles, quand on fait la répartition de ces aménagements, il faut qu'il y ait 30 à 40% de ces aménagements hydro-agricoles qui doivent revenir obligatoirement aux femmes.
Selon le réseau national des chambres d'agriculture du Niger, en droit coutumier, les femmes n'héritent pas de terre. Et en droit islamique, elles héritent d'une part égale à la moitié de celle d'un homme. Donc là, nous avons deux sources de droit. Donc selon vous, quelle est la loi la plus appliquée, où et pourquoi?
Franchement, je ne sais pas quelle est la loi la plus appliquée. Mm-hmm. Dès lors que j'ai découvert l'islam, j'ai essayé de voir la sagesse pour laquelle peut-être Allah SWT m'a donné la moitié du terrain par rapport à celui de mon frère. Et j'ai compris. J'ai compris parce que quel que soit mon âge, que je sois épouse de quelqu'un, je suis à sa charge. Même la force pour travailler, c'est quelque chose. Moi, j'ai juste un petit lopin que je vais travailler. Mon frère a le double. Mon frère a encore ma charge. C'est dommage qu'aujourd'hui nos frères ne veulent pas l'entendre, mais c'est comme ça. Donc là, c'est juste un bonus que Allah SWT a voulu me donner parce que peut-être que plus tard, j'aurai aussi des garçons, des enfants qui voudraient avoir. Parce que ça rattache quand même, la terre te rattache à ton origine. Je suis de tel village, d'accord, mais tel village, quel quartier ou bien quel lopin de terre. Donc rien que pour cela, j'aurais besoin de ce lopin de terre dont Allah a voulu me gratifier. Mais c'est en réalité pas pour travailler et subvenir à un besoin quelconque. Tous mes besoins sont censés être pris en charge. Je ne sais pas comment nos frères, nos époux, nos fils vont se débrouiller, mais il va falloir qu'ils se rappellent de ça. Par exemple, je suis le frère, je suis la sœur à maître.
Maître, il a droit à deux parts. Et vous, à une seule part. Mm-hmm. Donc, comment est-ce que la loi islamique nous explique ça?
Ça, tu sais, il y a des choses qu'on explique. Vous prenez la sourate Nisa, tout le détail y est. La sourate de la femme. Est-ce que tu vois? Mm-hmm. Donc, c'est dans cette sourate qu'Allah a fait sa répartition. L'héritage, c'est Allah qui a fait sa répartition. quand est-ce qu'il te revient la moitié de ce que tes parents ont laissé, quand est-ce qu'il te revient la moitié de ce que ton frère a, ou le tiers, ou le quart dans certaines circonstances. Dans certaines circonstances, c'est le huitième. C'est tout un détail, c'est toute une science, la science de l'héritage. Tu as raison de poser cette question parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en tant qu'épouse, nous voyons nos jeunes filles. C'est pratiquement des foyers de cotisation. Tu payes l'électricité, je paye le loyer. C'est très dommage, c'est parce qu'on est tombé très bas. Il y a carrément un fossé entre la réalité aujourd'hui de nos communautés musulmanes et ce que l'islam dit. Mais il ne faut pas qu'on se fasse, ne nous faisons pas d'illusions. Allah le dit, ne convoitez pas ce que Allah a donné aux uns et aux autres parmi vous. Donc, cesse de calculer avec l'avoir de madame ou de ta petite sœur, c'est sa propriété privée. Elle va l'utiliser comme elle veut.
Maître, selon le droit civil, comment est-ce que le partage du foncier se fait? Est-ce que c'est le même partage qu'un droit islamique?
C'est comme ce que vous a dit madame. Donc c'est toute une science, le droit successoral, même en matière civile. Donc, mais en résumé, c'est pas la même chose. Ici, dans les codes civils, c'est à part égal. C'est à part égale que vous soyez femme ou homme. Et aussi, même les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui ont qualité à hériter, c'est beaucoup plus restreint en droit civil qu'en droit islamique. Voilà, c'est ce que j'ai eu à constater dans les cas que j'ai eu à traiter devant les cours et tribunaux. Le droit positif nigérien en matière civile est très complexé. D'abord, on n'a pas un code de personne et de la famille. D'accord. Et qu'est-ce que la loi dit? Elle dit que le code civil est source de droit, la coutume est source de droit. Maintenant, tout dépendra de ce que vous voulez, une fois devant les juridictions compétentes. Maintenant, tout à l'heure, vous parliez d'une coutume qui, ils ont dit, selon la coutume, la femme n'a pas droit à la terre. Ils disent que, sincèrement, moi, j'ai... Vous savez, on dit, quand vous remarquez les tribunaux, on dit à chaque fois, le tribunal statuant en matière civile et coutumière. C'est pourquoi, en matière coutumière, que ce soit devant les tribunaux d'instance du premier degré et les tribunaux de grande instance, le juge professionnel est toujours accompagné des juges assesseurs qui représentent les coutumes de parties. Ils ont une voix consultative, c'est-à-dire ils ne décident pas, mais ils aident le juge professionnel, ils l'édifient sur le contenu des coutumes. Parce que quand on dit la coutume est source de droit au Niger, il y a beaucoup de coutumes. Je pense 8 normalement, mais nous ici c'est même peu. Si vous partez dans les autres pays, Côte d'Ivoire, Congo, c'est des centaines de coutumes. Donc il y a un problème quant à la maîtrise même des contenus de ces coutumes. Ces coutumes ne sont pas codifiées, il n'y a pas un code inécrit. Si vous prenez pour le civil, les textes sont là, le juge il lit, tu invoques la loi, il applique. Pour les coutumes c'est, ça y est, dans les rumeurs, tout le monde dit ce qu'il veut. Les partis viennent chacun. Vous êtes même de la même coutume. Chacun va dire ce qu'il y a selon ce qu'on m'a raconté. Donc, bon, ils font de leur mieux quand même, les juges assesseurs. Ils édifient le juge et maintenant, lui, les statuts. Et comme je l'ai dit, il y a une certaine complexité au niveau des sources de droit. Et souvent, dans nos villes, les gens compliquent eux-mêmes leur situation. Parce que l'islam que vous dites là, nous, devant les cours et tribunaux, nous appliquons le plus souvent la coutume islamisée. Les coutumes...
En général, quand il y a un litige de foncier...
Quand les partis nous le demandent, sauf si eux, ils viennent, ils disent qu'ils sont venus qu'on leur applique le code civil. C'est à eux de faire le choix.
Sinon, quel est le droit qui est le plus appliqué?
Vous savez, en matière juridique, il y a ce qu'on appelle locus regis actum, la forme régit le fond. Les gens, par exemple... sous-estiment la forme par laquelle ils font leur rapport en matière civile. Si vous prenez, par exemple, le mariage, le fait d'aller chez un marabout, on fait la fatia, on célèbre un mariage, c'est une forme. Le mariage est valable. Cette forme est appelée à régir le fond de ton mariage jusqu'à le décès de ton partenaire. Donc, pour nous, pour les juridictions, dès que tu viens, on te demande, tu t'es marié où? Chez un marabout qui a fait la fatia. Ça, c'est une condition de forme, une publicité prévue par la coutume islamisée. On mentionne clairement maintenant la coutume islamisée. Donc là, tout ce qui va suivre, tes relations sur tes biens, tes terrains, nous, on t'applique le Coran. J'ai connu des cas, un procès dans lequel je suis partie jusqu'à la cour de cassation, dans lequel le couple s'est marié d'abord chez un marabout, on a fait la fatia, et ensuite ils se sont retrouvés à la mairie conformément au code civil. Donc maintenant, au niveau, quand le mari est décédé, au niveau de la succession, il s'est retrouvé que je pense que c'est une veuve ou un enfant qui est chrétien, et que lui, il dit non, on va appliquer le code civil. Et que les autres disent non, notre papa, c'est la fatia et la fête, donc c'est l'islam. Donc on est parti jusqu'à la cour de cassation. Mmh. Donc moi, je pense que les gens doivent faciliter même la situation à nos juridictions.
Donc c'est aux personnes de décider quelle loi ils veulent utiliser.
Effectivement, c'est à vous de le décider. C'est par exemple pour la succession. Si vous prenez après le... Parce que les biens s'acquièrent, c'est soit on dit par les obligations ou par la succession, et surtout par la succession. Si vous prenez le cas de la succession, nous, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, vous vous présentez devant le tribunal du domicile du défunt. Donc, pour l'ouverture de la succession. Donc, vous faites un conseil de famille. Donc, vous déterminez les gens qui ont qualité pour hériter. C'est là où on met les femmes. S'il y a une femme qui pense qu'elle doit hériter des terres, on l'a empêchée. Là, le juge va corriger cette anomalie. Il va vérifier est-ce que réellement elle est descendante du défunt. Maintenant, après, quand il établit la liste là, bon, on désigne un mandataire à l'issue de ce conseil de famille. C'est là où ils vont décider. S'ils veulent le code civil, on fait le partage conformément au code civil. S'ils veulent la coutume, là, le juge, et le plus souvent, là, qu'est-ce que fait le juge? Il les renvoie devant l'association islamique, qui fait le partage conformément à la loi islamique, mais qui, bon, elle, comme c'est pas une juridiction, elle renvoie ce partage au niveau du juge qui homologue pour que ça ait une force exécutoire.
D'accord. Donc là, on retient que le droit coutumier reste malgré tout le contenu le plus connu et le plus utilisé.
À 90%.
D'accord. Donc, Madame Fatoumatou, quels sont les rapports et les besoins de la femme au foncier?
Ben, le foncier est un droit, comme tous les autres. Pour la femme, l'accès au foncier et aux activités rurales sont une question de droit de l'homme et de gouvernance démocratique. Donc, il y a des études qui ont démontré que 60 à 80% des aliments produits dans la plupart des pays en voie de développement sont produits par les femmes. Et donc, selon cette même étude, on a constaté que chaque jour, il y a des femmes chefs de ménage qui naissent. Donc, des femmes qui sont aussi chefs de ménage qui devraient entretenir une maison et une famille. Donc, ce qui veut dire que l'accès à la terre et à la sécurité alimentaire est la clé de ce problème-là. Donc, tant que la femme a accès à la terre, elle va accéder à son émancipation économique. On a toujours tendance à dire que la femme ne doit pas quémander, la femme ne doit pas être aux dépens de quelqu'un, ni de son mari, ni de sa famille, mais il faut qu'elle soit économiquement indépendante. Comment elle va être économiquement indépendante si la femme rurale n'a pas accès à la terre? Parce que c'est son patrimoine. Donc la terre, normalement, c'est sur cette terre-là qu'elle devrait, elle doit travailler et puis acquérir tout le potentiel financier.
Toujours avec vous, Madame Fatoumatou, faites-nous l'état des lieux de cette situation dans tout le Niger. Quelles sont les régions les plus touchées?
Donc, on constate qu'au niveau national, on a 93,4% des exploitations familiales agricoles qui sont gérées par un homme contre 6,6% qui sont gérées par une femme. Au niveau régional, la région d'Agadez détient le pourcentage le plus élevé de chefs d'exploitation familiale de sexe féminin, soit 12,4%, suivi de celle de Diffa avec 10%. La région de Tillabéri détient le plus faible taux de chefs d'exploitation familiale de sexe féminin avec 2,6%. Donc, les superficies de culture maraîchère exploitées par les femmes représentent à peine 5% de celles mises en valeur par les hommes. La région de Dosso se détache nettement avec 87,7% de la superficie consacrée par les femmes au maraîchage, contre 12,3% pour les hommes. Et Tillabéri suit de très loin avec moins de 15%. C'est par contre dans la région d'Agadez qu'on n'enregistre aucune superficie utilisée par les femmes au maraîchage hors zone de décrue.
Donc, les sources du droit foncier sont diverses et parfois contradictoires au Niger. les protagonistes d'un litige foncier peuvent recourir au droit qui arrange, comme vous l'avez dit, une partie et défavorise l'autre partie, généralement les femmes. En effet, demander l'égalité en matière d'héritage n'est pas du tout un réflexe pour les femmes et risque d'être mal perçu. Voilà. Madame Nargungu, comment est-ce que la loi coranique permet aux femmes de bénéficier de l'héritage?
J'ai plutôt envie de rebondir un peu sur ta dernière phrase quand tu dis que demander une part égale de l'héritage risque d'être mal perçu. C'est comme ce que Maître vient de dire tout à l'heure. Il ne faut pas que les gens se mettent dans des situations compliquées. En tant que musulmane, tu n'as pas à réclamer quelque chose qui ne t'appartient pas. Le Coran est clair. Donc, oser demander l'égalité dans ce partage, la personne a blasphémé. Ce n'est pas ton droit. Là, ce n'est pas nos avis qui comptent. Ce n'est pas ce que tu veux qui compte. Même si nous avons besoin de révolution, de féminisme, de réclamation de droits, il faut qu'on fasse très attention. Contente-toi de ce qu'Allah a donné pour toi. C'est pas qu'elle va être, que ça va être mal perçu. Bon, ça va être mal perçu parce que nous sommes dans une société où tout le monde sait ce qui se passe. Voilà. Donc, pour en revenir maintenant à ta question.
Oui, oui. Comment la loi coranique permet aux femmes de bénéficier de l'héritage?
Oui, c'est ce que j'ai dit.
La procédure que la femme doit suivre, par exemple, en cas de privation de son héritage.
Ah, c'est ce que tu entends par là.
Voilà.
Bon, le Niger est un pays bien organisé. On sait où s'y rendre. Il vient de parler de quelque chose de très important. Il y a le conseil de famille qui a eu lieu, n'est-ce pas? Où on a déterminé, le PV est là, et ce conseil est référé à l'association islamique, ce PV plutôt. Je pense ils se sont bien instruits aujourd'hui par rapport aux dispositions coraniques. Les assesseurs étant là pour les aider. C'est instruant, la femme peut dénoncer. Si réellement elle a droit, on n'a même pas besoin d'aller au tribunal de première instance. C'est très clair, c'est évident. Aujourd'hui, on a plusieurs voies de recours. Surtout qu'il y a un hadith qui fait très, très peur quand on dit que le jour de la résurrection, le centimètre de terre, le bout de terre que tu as volé à quelqu'un, que ce soit un centimètre ou un hectare, on le creusera jusqu'au septième, à la septième terre. Et c'est ça le collier. Hein, c'est le collier que la personne portera sur son cou pour faire le tour du terrain de jugement.
Maître, donc selon le droit civil, quelle est la procédure que la femme doit suivre pour bénéficier de son héritage?
De son héritage, effectivement. Maintenant, bon, quand vous dites le droit à la terre et vous dites voie de recours, maintenant, moi, c'est que je veux. Si elle veut faire un recours, tout dépend de dans quelle situation elle se retrouve. Elle peut avoir un terrain, pas seulement par le fait de la succession. Bon, je commence par la succession. Pour ce qui est de la succession, voilà qu'est-ce qui se passe. Après le décès du défunt, au profit de qui elle peut hériter, il y a des femmes qui viennent après des mois. Elles me disent que, par exemple, elles disent au cabinet, apparemment, on ne parle même pas de l'héritage d'un tel. Et nous, on a peur de parler, les gens vont à leurs occupations. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Que peut-être il y a quelqu'un qui est en train de dilapider les biens. Maintenant, ici, si nous, on parle, on nous dit non, ce n'est pas le moment. Ton premier réflexe, c'est quoi? Tu vas opter. C'est soit si tu vas chez le chef du village, parce que je rappelle que les autorités coutumières et administratives ne sont pas des juridictions, mais ont un pouvoir de conciliation. C'est des sages qu'on écoute. Donc, elle peut appeler la famille de la femme là. Donc, pour leur dire, vraiment, il faut ouvrir la succession, il faut engager une procédure. Elle peut aller devant l'association islamique aussi, qui a un pouvoir de conciliation. Elle peut aussi aller devant le juge. D'accord, de son ressort, je ne sais pas, ça sera le juge d'instance, parce que ce n'est pas partout où il y a le tribunal de grande instance. Donc ça sera soit le juge d'instance, soit le tribunal de grande instance statuant en matière civile et coutumière. Donc c'est le juge maintenant, lui, à la demande de cette femme qui a un intérêt, donc il va convoquer le conseil de famille. Et là, l'appareil est déclenché. Je pense que la famille n'est pas échappée. Maintenant, ça, c'est pour la succession. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, conformément au livre 3 du Code civil, on dit des différentes manières dont s'acquiert la propriété. La femme peut acquérir un terrain, pas seulement par la succession. Ça peut être par l'effet des obligations, par l'effet de la prescription, comme on dit. En matière coutumière même, quand vous exploitez un terrain, je pense que c'est la coutume Hausa, d'accord, vous occupez un espace pendant 30 ans et que personne n'est venu réclamer cet espace, et vous n'avez jamais payé de dîme ou de loyer, si vous justifiez ça devant un juge, on vous donne ce terrain. Maintenant, le troisième cas, par l'effet des obligations. Cette femme peut acheter un terrain avec son propre argent. Elle a ses TF, ses parcelles déposées. Mais il y a des cas que j'ai rencontrés. Maintenant, l'époux prend la parcelle, le terrain. Elle dilapide. Elle lui a remis ça. Elle n'a pas demandé des actes. Elle demande ça le jour où elle constate qu'avec cet argent, elle est partie se remarier. Donc, elle vient, elle me dit, « Donc, maître, moi, il faut que vraiment, il faut qu'elle me rende mes actes de succession, mon TF. » J'appelle l'époux, il me dit qu'il refuse. Elle veut son mariage, elle veut de son foyer. Elle s'assoit et elle me dit, « Maître, on l'amène à la gendarmerie, on l'amène à la police, il faut qu'elle me donne ma parcelle. » Et on continue de vivre. Malheureusement, c'est qu'elles ignorent ici, tant qu'on est dans le lien du mariage, il y a ce qu'on appelle l'immunité légale. C'est prévu par l'article 342 du Code pénal. Ça, j'ai eu beaucoup de cas. Même si je pars là-bas, ça ne peut pas prospérer. Parce que conformément à l'article 342 du Code pénal, on dit « ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles les délits portant directement atteinte à la propriété commis par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris. » Il y a une immunité légale dans cette matière. Le procureur va classer ça sans suite. Sur ce plan, nous, on ne peut demander que plus de prudence à l'égard vraiment de nos sœurs. Et c'est pareil pour un père qui dilapide, qui prend les actes de succession de sa fille. Là aussi, il y a l'immunité légale. Nous ne pouvons pas, en matière pénale, prendre un père et l'amener en prison.
D'accord. Donc, allons maintenant à la rencontre d'une femme jamais scolarisée et militante des droits des femmes. Il s'agit de Hajia Fatima, 52 ans, mère de 6 enfants et à la tête de la Chambre régionale de l'agriculture de Maradi, déterminée à promouvoir l'accès des femmes au foncier.
Depuis son arrivée à la tête de la Chambre régionale d'agriculture, Hajia Fatima n'a cessé de lutter en faveur des femmes. En effet, pour elle, l'autonomisation de la femme passe d'abord par son droit à acquérir des terres, surtout celles qui leur reviennent de droit à travers l'héritage. Elle témoigne que ce combat est une réelle motivation pour elle, car elle aussi s'est battue pour avoir droit à sa part d'héritage.
Ma contribution, je l'ai commencée par moi-même. J'ai un champ que je cultive. Pourquoi je ne vais pas aider mes sœurs pour qu'elles réclament leurs droits à leur tour, là où ça se doit? Nous avons même approché un agronome du service juridique qui nous a édifié sur les droits des orphelins. Nous avons rassemblé les femmes pour les sensibiliser sur les procédures de droit en cas de décès.
Pour Hajia Fatima, les femmes sont restées longtemps leurrées par les hommes avec des arguments trompeurs.
La plupart du temps, quand on parle d'héritage, on dit à la femme que sa part est chez son mari. Non, la part de la femme est chez son père. Les gens ont finalement compris qu'on a beaucoup abusé de la femme sur l'héritage. Moi, je suis déterminée à les aider à connaître le droit sur l'héritage, que ce soit dans les cérémonies, les conférences, etc.
Comme on pouvait s'attendre, son combat pour le respect des droits des femmes rurales et même de leur émancipation est apprécié des femmes de son village d'Anja. Rabia Abdou témoigne.
Hajia Fatima est une femme voyante, déterminée. Elle fait la navette dans les administrations. Elle lutte jour et nuit pour les droits des femmes. Avec la politique d'aujourd'hui, les hommes qui s'opposent des femmes, elle, son unique ambition, c'est de promouvoir les droits des femmes. Elle nous édifie dans plusieurs domaines.
Avec à son actif un deuxième mandat au niveau de la Chambre régionale d'agriculture, Hajia Fatima entend profiter de ce privilège pour continuer à sensibiliser les femmes pour leur éveil de conscience.
Voilà, Madame Nargungu, que pensez-vous de ce que Hajia Fatima vient de nous dire?
On a besoin de beaucoup de femmes comme elle, donc de dynamisme et de disponibilité des femmes, parce que c'est surtout ça qui nous manque. Il y a très peu de femmes qui sont sensibilisées, qui peuvent répondre et tenir tête à ce genre de situation, parce que ce que maître vient de révéler vraiment me donne des sueurs froides. C'est ce que nos femmes vivent. Elles le vivent. Il y en a qui, effectivement, n'osent même pas aller à la justice. Parce qu'il y a l'amalgame que nous-mêmes nous nous sommes fait entre droit islamique et procédure civile. Et je me demande si la plupart de nos femmes ne sont pas dans ces situations. Et donc, nous avons vraiment besoin de dames dynamiques comme Hadjia Tima. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont partis à Makaranta, qui ont découvert ce que nous sommes en train de dire, les réalités et la portée de ce droit islamique des femmes, mais qui devrait être comme les Hadjia Tima. On devait en avoir partout. Ça va quand même éveiller leur conscience et leur permettre de faire très attention. Vous savez, les hommes, malheureusement, sans être sexistes, ils ont l'art de manipuler. La femme est un être très faible, est une créature très faible. Tu vois, à qui tu peux avoir confiance après avoir quitté tes parents? Peut-être que le père ne vit plus ou quoi. Tu viens, ce que tu as de plus cher, c'est une preuve aussi. Nous voulons lui prouver que vraiment, je suis une épouse fidèle. Je te confie ça parce que je n'ai rien à te cacher. D'accord. Et c'est une très bonne chose. Moi, j'en connais une. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a pris le titre là. Il est parti déposer à la banque comme garantie. Il s'est bien endetté et il n'a pas payé. Le jour où la dame s'en est rendue compte, elle vient, elle veut retirer son titre. On lui dit non, maintenant il n'y a rien à faire. On doit vendre la maison et prendre ce qui nous revient. Mais ces hommes-là, ils ont aussi des sœurs, ils ont des épouses, des mamans. Parce que le problème de la femme, seule une femme peut le comprendre et l'aider à en sortir. L'abus de confiance, ça c'est passible quand même de peine. Hein, bien qu'il y ait l'immunité légale, hein, il y a l'abus de confiance qui est là. Voilà, ou escroquerie. Et imaginez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire à une femme de pire? Je pèse mes mots, c'est pas parce que je le veux, mais en tout cas dans sa vie, que de lui donner comme cadeau une coépouse. Et en plus, voyez le clou. Prendre quand même son bien, non.
Maître, votre appréciation à propos de Hadjia Tima Ibrahim.
Ça, je fais mien pour des observations de madame, envie de madame. Donc, qui a apprécié son courage. Vous savez, un président français disait que celui qui n'est pas parti à l'école est un obscurantiste. J'ai vu quelqu'un lui répondre à un commentaire pour lui dire non, ne pas aller à l'école, tu seras illettré. Mais pas l'obscurantisme. Donc, même si on n'est pas allé à l'école, du blanc, beaucoup de femmes aujourd'hui, on ne peut pas me dire qu'elles ne sont pas parties à l'école islamique. Donc moi, je me dis, l'essentiel, c'est de chercher le savoir, la science, que ce soit chez le marabout du quartier, dans une école coranique, à l'école. Ça sera, moi, je pense que la première lutte de toutes les femmes à leur niveau. Il n'y a pas un père, parce que la femme commence dès le bas âge, qui peut empêcher à sa fille de chercher le savoir. Donc, la première lutte, c'est la science. Maintenant, après ça, moi, je pense que toutes les femmes pourrions affronter ces genres de difficultés et prendre les mesures nécessaires et adéquates au moment opportun pour rentrer dans leurs droits. L'idéal serait pour ces femmes de prendre des mesures préventives pour protéger leurs biens. Sinon, la plupart du temps, elles ne voient pas ça venir. Mais vraiment, être courageuse et prendre des décisions, des mesures adéquates de se défendre et de réclamer leurs droits devant la personne qui convient, donc à qui de droit.
Madame Fatouma, dans le cadre de l'élaboration de cette politique foncière, nous avons déjà fait les états généraux sur le foncier. On a fait des ateliers régionaux pour recueillir les avis de tout un chacun. On a eu à travailler avec Hadjia Tima, que je connais très bien. Je connais bien son leadership. C'est une femme battante. Nous avons eu même à l'inviter ici et à Niamey quand on a organisé un atelier sur l'accès des femmes et au foncier.
Voilà. L'état des lieux de la problématique de l'accès des femmes à la terre au Niger laisse apparaître qu'elles sont utilisatrices de la terre, mais de façon générale, elles n'ont pas un accès à cette source égale à celui des hommes. Bien que les situations soient variées, elles ont majoritairement des droits restreints et provisoires. Pour discuter de cette thématique sur le droit foncier de la femme au Niger, quelle voie de recours pour permettre aux femmes d'accéder à la terre, nous étions avec Madame Hima Fatoumatou, secrétaire générale du RDFM, Rassemblement démocratique des femmes du Niger, membre du bureau exécutif de la plateforme paysanne du Niger, avec Madame Hawa Nargungu, enseignante dans une école coranique, et Maître Ould Salem Mustapha Saïd, secrétaire général des associations des jeunes avocats du Niger. Donc avant de terminer le forum de ce soir, voici notre rubrique Affairage, une causerie féminine destinée à nos auditrices animée par Mariam Diallo et Rakia Arimi.
Affairage.
Dieu, encore un ongle qui se casse. Waouh, c'est joli ça.
Quoi? Mes ongles? Tu vois, non?
Regarde les miennes, tout est cassé. C'est terrible. Mais toi, comment tu fais pour avoir des ongles solides et en pleine santé?
D'abord, arrête de ronger tes ongles tout le temps. Pour des ongles cassants, des ongles mous, des ongles qui se dédoublent ou des ongles impossibles à garder longs, à chaque cas, sa solution.
C'est vrai ça?
Bien sûr. Écoute, au moins une fois par semaine, coupe une rondelle de citron, frotte tes ongles matin et soir pendant au moins 15 jours. Ajoute quelques gouttes d'huile d'olive sur le demi-citron et tu auras la solution idéale pour fortifier, blanchir et hydrater tes ongles en un seul geste.
Et si je veux que mes ongles soient très propres?
Pour débarrasser tes ongles de toutes leurs impuretés, frotte-les deux fois par semaine, dessus et dessous, avec une brosse à dents imbibée d'eau chaude et de bicarbonate de soude.
Mais si j'ai fait tout ce que tu viens de me dire, es-tu sûr que j'aurai un bon résultat?
Bonne question! Après avoir essayé tous ces soins et traitements, si tes ongles restent fragiles et cassants, le problème vient peut-être de ton alimentation. Comme les cheveux ou la peau, les ongles en mauvaise santé peuvent témoigner de carences alimentaires.
Carence alimentaire, c'est quoi encore tout ça?
Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque à ton organisme. Pour les dépister, un petit bilan sanguin s'impose. Des ongles fragiles sont souvent la résultante d'un manque de fer que l'on trouve dans la viande rouge, le chocolat noir, les fruits secs ou d'un manque de calcium que l'on trouve dans le fromage et le lait. Optez pour une alimentation équilibrée, riche en huile végétale, en soja, en crudités, en légumes, en poissons gras et souvent la clé pour retrouver des ongles plus solides.
Yes! Je m'y mets tout de suite. Merci ma chérie d'amour, tu es géniale.
Affairage.
C'était l'astuce « Comment prendre soin des ongles ». Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Merci à nos chers auditeurs de nous avoir suivis. Nos remerciements vont également aux femmes de Kolo, région de Tillabéri, Sabongari à Maradi. Prochain rendez-vous des programmes du studio Kalangou demain à partir de 17h sur nos 38 radios partenaires dans toutes les régions du Niger. Envoyez-nous vos témoignages et vos propositions en message vocal par WhatsApp au 80 06 88 54. C'était Rafika Taher à la présentation et Seini Isaka à la technique. Au revoir.
Espace femme.